de Zeus.
Bonjour.
Qu'est-ce qui se passe?
Je ne peux pas vous le dire.
Je vous demande une seconde le temps d'installer le prochain film.
Vous me recevez à vous parler.
Qui êtes-vous?
Je n'en sais rien. Et je compte bien le découvrir.
Fini la rigolade.
Cinérama.
Qu'est-ce que c'est que ce nom à la mort, Walmeuil? Qu'est-ce que vous faites?
Votre émission hebdomadaire sur le cinéma.
Vous avez une autorisation?
Bien entendu, j'en ai une.
Cinérama.
Ce nom, je n'encaisse pas.
Ben ça, c'est ton problème!
Chronique, blind test, interview.
Eh ben, c'est génial!
Amusez-vous bien.
C'est gentil.
Tout le plaisir est pour moi.
Bonjour et bienvenue, Cinérama, c'est une demi-heure pour parler de cinéma et aujourd'hui nous allons chroniquer des films qui sont en salle depuis le 11 juin et aujourd'hui c'est la parité également. Alors toi Manu, tu as un film coréen.
Oui, A Normal Family, l'histoire d'une famille toxique.
Toi Guillaume, c'est un film français d'une réalisatrice.
Oui, c'est Le Rendez-vous de l'été.
Et toi, Sophia, c'est le deuxième film d'une réalisatrice de cette émission.
Le nouveau film de Lola Doyon, Différente.
Quant à moi, j'ai vu Dragon, qui va être sur de nombreux écrans, et ce sera l'occasion de jouer alors un blind test. Alors, c'est un film en live action, parce que c'est un remake du Dragon d'il y a 15 ans, mais j'ai préparé un blind test avec des films qui mêlent des acteurs et des actrices avec des personnages numériques. Ainsi débute Cinérama avec un conflit moral pour deux frères qui ne s'aiment pas beaucoup et dont les enfants vont mal tourner.
J'en ai rien à foutre, mais c'est un très beau film.
Cinérama.
C'est votre dernier mot ?
Des 9 longs métrages réalisés par le sud-coréen Jin Ho-eur, hein, Seul après le snow, a bénéficié en 2006 d'une exploitation en salle. Alors moi, le lointain souvenir qu'il m'en reste est celui d'un mélodrame délicat. Alors ce qui n'est pas le cas de A Normal Family, hein, qui explore une autre facette, la satire sociale grinçante. Alors le film ausculte la perte des valeurs morales d'un pays en décomposition, récoltant les fruits de décennies de libéralisme décomplexé. Adapté d'un best-seller de l'écrivain Herman Koch, déjà transposé à l'écran à 3 reprises, en Italie, aux Pays-Bas et puis aux États-Unis. Normal Family parvient à saisir la situation complexe de la Corée du Sud au bord de l'implosion, alors derrière les apparences d'une démocratie sereine. Le prologue, déflagration de violence à contrôler, lorne du côté de Park Chan-wook. La confrontation musclée de 2 automobilistes entraîne la mort brutale de l'un d'eux et un accident collatéral, celui de la fille du décédé, gravement blessée. Le choc physique et émotionnel de la séquence permet d'introduire les personnages principaux, 2 frères que tout oppose, Ji Ha-won, avocat d'affaires sans scrupules engagé pour défendre le meurtrier, et Jae Jo, médecin épris de justice qui va tout faire pour sauver la petite fille.
Et là, on tenait ça
comme ça.
Avec leurs épouses respectives, les deux frères se réunissent selon un pacte ritualisé dans un restaurant chic pour évoquer les affaires de famille. Ce dîner diplomatique et symbolique prend des allures de petit théâtre de la cruauté, là exacerbant les rancœurs et reproches de chacun dans une atmosphère oppressante, qui est d'ailleurs sublimée par une esthétique aussi élégante que glaciale. L'affrontement prend une tournure personnelle lorsque leurs enfants se trouvent impliqués dans une agression quand même nauséeuse, le tabassage d'un SDF sans défense. Alors jusque-là, pour moi, c'est un sans faute. Normal Family s'impose comme une machine de guerre implacable, une précision narrative et formelle qui fait froid dans le dos. La sophistication de la mise en scène avec ses longs plans fixes asphyxiants et son découpage tranchant sert très bien à un scénario retors qui implique un spectateur amené à se poser des questions fondamentales s'il était confronté à des circonstances similaires. Doit-on dénoncer ses propres enfants au nom de la sacro-sainte vérité ou les protéger ? Quelles qu'en soient les conséquences, soulager sa conscience ou s'arranger avec elle, telle est la question. De ce conflit draconien passionnant à bien des égards, tant d'un point de vue philosophique que politique, Jin Ho-eur tisse une admirable étude de mœurs qui, hélas, ne tient pas sur la durée. Trop confiant, il verrouille toutes les issues et finit par se reposer sur une mécanique brillante, mais qui révèle ses artifices. Il renverse la position des protagonistes, le plus humaniste n'est pas forcément celui que l'on croit. Ce regard sarcastique n'est pas sans poser un problème de fond, servant la soupe aux esprits les plus réactionnaires, qui considèrent souvent que les individus les plus progressistes en apparence expriment leur conservatisme dès lors qu'ils sont impactés par un drame les touchant directement. Alors ce cynisme contestable infuse néanmoins une noirceur qui fait plaisir par sa dimension, on va dire, gentiment incorrecte. Le réalisateur déjoue des évidences, des clichés, pour en recréer d'autres un peu faciles. Alors c'est bien dans cette succession un peu de clichés ou de personnages un peu archétypaux que le film, ce thriller social, trouve sa limite, hein, étouffé par un récit programmatique, alors jusqu'au dénouement final. Alors la démonstration s'accompagne d'une méchanceté dans le regard, hein, ce qui demeure surprenant de la part d'un cinéaste attaché au mélodrame dans ses premiers films. Il dresse également le portrait d'une jeunesse effrayante qui a perdu toute forme de boussole morale, devenue le produit d'un capitalisme sauvage hiérarchisant les individus en fonction de leur importance. Même à un moment, je ne sais plus quel personnage dit que la vie d'un SDF, ce n'est pas très grave, en fait, ce n'est pas ça qui va ruiner le pays. Même s'il a parfois la main lourde, même je trouve souvent, Gino Ur signe un jeu de massacre assez réjouissant, un pamphlet féroce prenant pour cible une famille qui finalement n'a rien de modèle ni de normal, mais plutôt dysfonctionnel.
Alors c'est un film que j'ai vu, alors moi je ne reproche pas grand-chose à la mise en scène, et je trouve que même que tous les aspects cruels des enfants sont très bien montrés, c'est-à-dire que c'est jamais de manière directe, c'est toujours par l'intermédiaire soit d'images, soit de sons. Enfin voilà, il y a quelque chose qui
l'a. Tout ce qui a trait aux deux jeunes, aux enfants, je trouve que ça c'est très bien. C'est un peu appuyé, mais c'est quand même très bien.
Voilà, mais après il y a dans le scénario, tu dis effectivement il y a quelque chose de programmatique et vers la fin on sent les choses venir à des kilomètres. C'est un peu dommage.
La fin est too much, voilà, quand même.
Bon. Voilà. Mais quand même c'est quand même plutôt agréable de voir ce film coréen qui est dans cette espèce d'esthétique finalement du film coréen très
plaisante. On n'est pas loin de l'esthétique de Park Chan-wook ou même de Bong Joon-ho. On est dans le même esprit un peu social, un peu cynique. Enfin, c'est-à-dire que je pense que
les grands apparts.
Voilà, les grands apparts, c'est très beau, c'est très esthétique. Ouais. Je pense que c'est un film qui peut marcher. Il est sur plus de 200 écrans quand
effectivement.
Même.
Effectivement. Normal Family est en salle depuis le 11 juin. C'est aussi un film qui est en salle depuis le 11 juin, Différente, qui nous raconte comment Katia va pouvoir mettre des mots sur son étrangeté.
Dans mon métier, on demande parfois aux gens des choses bizarres.
Mais enfin, qui êtes-vous ?
Cinérama. Cinérama.
Quand je veux partir, je pars. C'est quand je veux, sans que tu me prennes la tête.
Non mais oui, Katia, mais t'es en boucle, là.
Lola Doyon signe avec Différente son quatrième long-métrage, un film intimiste qui revient au présent après Le Voyage de Fanny en 2016, son précédent opus centré sur des enfants juifs en fuite pendant la Seconde Guerre mondiale. Entre ces deux projets, la réalisatrice s'est faite plus discrète au cinéma, mais active en télévision en réalisant notamment des épisodes des séries 10% et Salade grecque. Elle revient donc aujourd'hui avec une œuvre contemporaine à hauteur de femme, portée par une actrice qu'on n'attendait pas forcément dans ce registre, Jenny Beth, qu'on connaît en tant que compositrice, chanteuse, mais aussi actrice, hein, déjà vue chez Audiard dans Les Olympiades, chez Justine Triet dans Anatomie d'une chute ou encore dans la série Split d'Iris Bray sur France TV. Elle incarne ici Katia, une documentaliste brillante mais un peu en décalage. Celle-ci est en couple avec Fred, interprété par Thibaut Évrard, mais globalement ses relations ne sont pas tout à fait évidentes et la trentenaire reste profondément solitaire, en retrait. C'est dans ce retrait que le film creuse pour faire rapidement émerger une question. Et si cette différence, ce sentiment constant de décalage portait un nom qu'elle n'avait jusqu'alors jamais envisagé.
J'aime pas trop changer mes habitudes. Je suis hyper sensible à la lumière et au bruit. J'ai toujours eu des relations compliquées. On n'aurait jamais dû se remettre ensemble.
Moi, tous les moments que je passe avec toi, ils sont tellement remplis.
J'ai pas arrêté de passer d'un travail à un autre parce qu'on me reprochait de pas m'intégrer assez au groupe.
Qu'est-ce que tu fais là ?
Qu'est-ce que tu fais là ?
Moi, je viens juste prendre un dossier en dessous de toi, là.
J'ai vu Thomas, on peut dire qu'il m'a largué comme une sombre merde.
Il était pas du tout intéressant, il était même complètement inutile.
Alors c'est en faisant des recherches pour un sujet autour de l'autisme dans la rédaction où elle travaille que Katia découvre des témoignages de femmes qui l'interpellent. Durant l'interview de la présidente d'une association de défense des droits des personnes dites sur le spectre, Katia se reconnaît dans les descriptions, dans les mots, les silences et les souffrances. Elle aussi évite les interactions sociales, fuit le bruit, les contacts physiques, les imprévus. Et ce glissement d'une recherche documentaire à une introspection intime constitue l'amorce du film. Celui-ci soulève alors une problématique encore peu représentée à l'écran, celle du masquage, cette capacité qu'ont certaines femmes neuro-atypiques à se suradapter pour passer inaperçues, quitte à s'effacer, à s'épuiser, à ne plus trop savoir qui elles sont vraiment, ce qui donne souvent lieu à des diagnostics tardifs. Et alors que la jeune femme se lance donc seule sur la voie du diagnostic, le résultat ne la bouleverse pas seulement elle-même, mais vient aussi interroger tout son entourage.
Katia,
est-ce que je suis virée ?
Ben non, non, je dis, c'est vraiment pas le sujet d'une réunion de rédaction. Tu passes avec Julien sur l'autisme ?
Alors les femmes autistes adultes dites à haut niveau de fonctionnement, celles qu'on appelait autrefois Asperger, parviennent mieux que leurs homologues masculins à s'adapter et à se camoufler socialement.
Alors côté entourage, Fred, le compagnon de Katia, est le premier concerné, sincèrement amoureux mais souvent dépassé. Il alterne maladresse, incompréhension et mise à distance, sans jamais devenir un mec toxique pour autant. Le fait que Différente adopte ponctuellement son point de vue le rend plus humain, plus nuancé. Ça valide son amour à l'égard de Katia aux yeux des spectateurs et spectatrices, mais ça détourne un petit peu l'attention de la protagoniste principale dont l'intériorité aurait mérité d'être suivie de bout en bout. Le film s'inscrit ainsi davantage dans le registre de la comédie romantique, faisant le pont entre histoire d'amour et d'autisme. Et oui, comme la série du même nom sur Netflix. La mère, elle, incarne un déni plus frontal, comme incapable d'accepter ce diagnostic, sans s'effondrer sous la culpabilité. Et c'est finalement le cadre professionnel, souvent vu comme rigide, qui se révèle plus enveloppant que la sphère familiale. Comme si faire reconnaître une neuroatypie restait une lutte, d'abord et surtout auprès des proches. Là où Différente frustre un peu, c'est en traitant son sujet presque exclusivement à travers le scénario, avec moins d'audace que de pudeur d'ailleurs. Alors certes, le travail de recherche permet d'éviter la caricature sur les troubles du spectre autistique, mais on aurait pu attendre un geste plus organique, plus sensoriel dans la mise en scène, surtout avec un sujet comme l'autisme, où les symptômes tels que la misophonie, la sensibilité à la lumière et la surcharge perceptive représentent vraiment une opportunité, une matière que les outils du cinéma peuvent investir. Bon, le travail du son reste quand même sensible et bien pensé, avec des morceaux rock, voire carrément métal, qui témoignent bien de pics euphoriques assez jouissifs. Et en contre-pied, des nappes plus introspectives lorsque Katia se retire dans la bulle de repli que représente son appartement. Au final, le film reste sur un registre un peu trop scolaire, trop académique, là où le trouble intérieur de Katia aurait pu s'exprimer plus amplement.
Il y a des moments où je suis vraiment épuisée. Et quand je vois les autres, je me demande comment ils font.
Katia, t'énerve.
Laisse-moi ! T'as pas t'imaginer que ça a été facile pour moi. S'entendre dire constamment « votre fille ne parle pas assez, est trop timide ».
On peut pas vivre tout le temps reclus, là, comme si les autres n'existaient pas.
En fait, c'est que je me demande si je suis pas autiste.
Autiste.
Ouais. Katia, c'est important de comprendre. Vous n'êtes pas incapable, vous n'êtes pas inférieure. Vous êtes différente.
Reste un film discret mais nécessaire. Différente ne sera peut-être pas le nouveau Rain Man, mais il a le mérite de mettre en lumière une réalité souvent invisibilisée et de dire avec finesse combien il peut être difficile d'être soi et peut-être surtout face à ceux qu'on aime.
Différente est en salle depuis le 11 juin. Dragon, gros succès d'animation il y a 15 ans et maintenant disponible en live action. Nous en parlons.
Pourquoi vous pensez qu'on ne prend pas le cinéma au sérieux ?
Cinérama.
Eh oui, on est comme on est.
Quand tu portes cette hache, c'est nous tous que tu portes.
Papa, je peux pas tuer des dragons.
En matière de dessins animés adaptés en live action, Disney est devenu un spécialiste en accouchant de nombreux longs-métrages comme Le Livre de la Jungle, Cendrillon ou dernièrement le fort peu réussi Blanche-Neige. D'ailleurs, ce dernier exemple pourrait faire lever le pied aux studios américains qui, en adaptant ses succès, comptent sur les enfants évidemment et les parents soucieux de voir un dépoussiérage de leurs dessins animés d'enfance. DreamWorks a lui aussi décidé d'adapter ses succès en live action avec la saga Dragon. Quand on décide d'adapter un univers alors avec des caractères réels, soit on remâche une histoire, soit on en invente une. Avec Mufasa, par exemple, Disney avait fait ce choix de faire un spin-off. C'était plutôt judicieux. Pour Dragon, il s'agit d'un remake du premier volet du dessin animé.
Nous sommes
les descendants des meilleurs chasseurs de dragons de tous les territoires que les Vikings ont parcourus. Ces bêtes sont une menace pour toutes nos terres.
Il est temps, Harold.
Faut que je te tue. C'est parce que je suis un Viking. T'entends ? Je suis un Viking !
Dragon 2025 est donc une adaptation en prise de vue réelle du long métrage d'animation éponyme sorti en 2010. Il se trouve que Dean DeBruin est le réalisateur de l'original. Donc c'était lui aussi qui avait réalisé l'original de Lilo et Stitch, qui a connu sa version en live action qui est encore sur les écrans maintenant. Alors, comme on reprend l'original, eh bien ma foi, on est toujours à Burke avec un narrateur, Harold, le fils du chef, qui n'est pas considéré comme un viking, sous-entendu un homme, un vrai, un zigouilleur de dragons. C'est l'univers de la société virile avec ses gros barbus casqués qui poursuit donc un but, exterminer les cracheurs de feu.
Ils sont peut-être pas aussi méchants qu'on le croit.
Je te rappelle qu'on va être appelés à mener la même guerre que nos parents. Alors choisis ton camp.
Ils ont tué des centaines d'entre nous.
Et nous, on a tué des milliers d'entre eux. Vous devez tous voir ça. Je ne suis pas comme eux.
Le grand enjeu de ce passage de l'animation au live action était le choix des acteurs et actrices. Il y a Harold, jeune héros pacifiste, mais aussi sa copine Astrid qui, elle, en fait baver aux hommes. Le choix s'est porté sur des petites carrures. Le personnage de Buffy reste incarné par un adolescent qui a des kilos en trop. Alors, passé un temps d'adaptation, eh bien, on est plutôt raccord avec ce choix de casting projeté que l'on est au pays viking. Et quand arrivent les dragons, et le plus célèbre d'entre eux, Croque-Mou, on est comblé. Parole de ma fille, on dirait un vrai. 15 ans après, l'original, ce live-action donne effectivement eh bien, une nouvelle peau aux créatures dont on voit parfaitement les aspérités comme l'aspect luisant. C'est vraiment une vraie réussite que les deux univers, celui des comédiens et des êtres numériques, ne soient pas séparés par un gouffre. Dean DeBruin a donc réussi son pari de ne pas faire de ce live action de Dragon, juste eh bien, de quoi rapporter un peu plus de fric au studio DreamWorks. J'ai vu le film en VF où les accents n'apparaissent pas comme sur la VO, paraît-il, où l'accent viking prend celui de l'écossais un peu prononcé. A noter que le film peut être projeté en VF ou en VO sous-titré français dans les salles et aussi en 3D IMAX dans les salles adaptées. C'est dans cette version que je l'ai vu et franchement, c'est un grand spectacle qui fait plaisir aux enfants et aux parents. Ce dragon nous donne l'occasion de jouer, alors non pas avec des remakes en live action de dessins animés qui sont sortis sur les écrans, mais j'ai préféré eh bien, qu'on essaie de trouver 5 films qui mêlent des acteurs avec des créatures numériques. Voici le premier extrait.
Monsieur Brown est ce qu'on appelle un analyste de risque. Il dit qu'avoir un ours à la maison augmente les risques de catastrophe de 4000%. Madame Brown illustre des histoires d'aventure. Sa dernière histoire se passe dans les vieux égouts de Londres. Elle dit que pour l'instant, elle est bloquée parce qu'elle n'arrive pas à trouver un visage à son héros. Mais elle n'a aucune difficulté à trouver des surnoms pour sa fille Judy, comme paillette, noix de coco et...
Sucre d'orge ? Ah, coucou chérie. J'aimerais aller faire un tour dans les égouts demain soir. Je voulais savoir si ça te plairait de m'accompagner. Tu peux emmener ce Tony.
Ah oui ? Et pourquoi je lui proposerais une promenade sous les toilettes ?
C'est pas ça du tout, chérie. C'est un labyrinthe sous terre qui peut t'emmener partout dans la ville.
C'est bizarre, ça pue. Et c'est embarrassant.
Et c'est trouvé.
Et c'est Paddington.
Oui, de Paul King, film de 2014. Paddington raconte l'histoire d'un jeune ours péruvien fraîchement débarqué à Londres à la recherche d'un foyer et d'une vie meilleure. Il tombe donc sur une famille dont il y avait ici la description. Mais c'était qu'une partie de la séquence. 2,7 millions d'entrées pour ce film qui a plutôt bien marché. Alors celui-ci, l'extrait que nous allons écouter, eh bien, est celui d'un film qui n'a pas du tout marché.
J'ai vu tellement souvent ces yeux de vos morts qui ont l'air de dire quelle horreur, dites-moi que c'est pas vrai. Le moindre bouffon qui arrive de Pétaouchnok a exactement ton regard. Je n'ai même pas de preuves à te donner. Si tu me laisses tomber, si tu laisses tomber ce deal, il sera trop tard pour comprendre. C'est ta dernière chance. T'es prêt à oublier tes jouets et à devenir un homme? Es-tu prêt à faire plus de fric en moins d'un an que ton pauvre père durant toute sa vie? T'es prêt à devenir un véritable pilote de course? Alors tu dois signer ce contrat!
L'indice arrivait vers la fin seulement.
Pilote de course, l'indice?
Oui.
Non, bah, je l'ai pas.
Alors, pour décrire les images, enfin, pour moi, c'était vraiment une espèce de révolution dans l'image. C'était vraiment...
Speed Racer?
Oui, Speed Racer, voilà. Ouais, il suffisait de dire ça, révolution image, voilà. Des sœurs Warshawski, adaptation réussie de la série animée japonaise Magogogo. Speed Racer est un jeune prodige de la course automobile né pour la course au sein d'une famille de pilotes. Mais quand il défie M. Royalton, président directeur général corrompu des industries Royalton, eh bien, le jeune homme découvre que tout n'est pas rose dans le sport qu'il adore. Il y avait un casting impressionnant, Emile Hirsch, Christina Ricci, John Goodman, Suzanne Sarandon, et il y avait beaucoup de voitures et d'effets numériques. C'est pour ça que je l'ai placé dans ce blind test. Et 111 000 entrées en France pour ce film des frères, des sœurs Warshawski. Troisième extrait de ce blind test, donc nous cherchons des films avec des acteurs et puis des personnages ou des décors numériques.
Moi, gouverneur de terre, toi ça va pas, moi ça jamais.
Mais alors qui êtes-vous? Quel genre de monstre êtes-vous?
Tu dis un peu tout faux.
Vous m'avez enlevé.
Oui, oui, bon là, tu dis un peu tout vrai. Quoi qu'il en soit, je ne t'ai pas enlevé beaucoup. Après tout, tu n'es qu'une petite chose de rien. Mais je ne peux arrêter de penser à tes pauvres pères et mères qui doivent trépigner tous azimuts.
Sauf que je n'ai ni mère ni père.
T'es toute seule?
Ils sont morts tous les deux quand j'étais bébé.
C'est trouvé.
C'est le bon gros géant.
Oui, du grand réalisateur Steven Spielberg, film de 2016. Sophie, une fillette de Londres, est enlevée par un géant au cœur tendre. Ils entament bientôt ensemble un voyage nocturne où il est question d'envoyer des rêves idylliques aux enfants endormis. Et sur leur route, eh bien, quelques embûches quand même, hein, comme ces mauvais géants menaçant de dévorer les jeunes du monde entier. 771 000 entrées en France pour ce film. Et figurez-vous que l'extrait que nous allons écouter est aussi un film qui a fait le même nombre d'entrées.
Il est adorable.
Tu es adorable, il piche que dalle.
C'est moi, c'est à cause de ce truc que je me suis mis dans le nez. Non, pas ce genre de truc, non, c'était du gaz. J'ai respiré gaz, c'était un accident, j'ai pas fait exprès de respirer ce gaz.
Évite les fuites sur le gaz. Sauf si t'as envie qu'un flic t'envoie au placard. On bouge.
Personne d'autre l'entend parler.
Bon, c'est une première pour moi aussi.
Il dit des mots.
Je leur parle tout le temps, mais ils entendent que pika pika. Ils me font des caresses et des bisous, ils me tripotent avec leurs mains pleines de doigts, c'est dégueu.
Personne d'autre l'entend. Vous l'entendez parler? Vous entendez qu'il dit des mots?
Petit, c'est quand même pas si dur à comprendre. Tu es la seule personne qui m'entend. C'est le destin.
Ça n'a rien à voir.
Alors pourquoi t'étais dans l'appart?
C'est celui de mon père, voilà pourquoi j'y étais. Qu'est-ce que tu faisais là-bas?
T'es le fils d'Harry?
Alors, ça n'a pas été trouvé en studio, je peux donner un indice. Donc, il y a ce personnage qui peut entendre une créature. Tous les autres, ils entendent Pika.
Détective Pikachu.
Pokémon Détective Pikachu de Rob Letterman, film de 2019.
J'ai Blu-ray.
Oui. Après la disparition de Harry Goodman, un détective privé, son fils Tim va tenter de découvrir ce qui s'est passé. Et le détective Pikachu, ancien partenaire de Harry, participe alors à l'enquête. Pikachu est un être extrêmement drôle. Le film est extrêmement bien fichu, je trouve.
Alors, j'avoue, je l'ai vu 3 fois, le film.
Ah oui.
Je sais pas, il me fait rire.
Mais oui, il est très bien, on le recommande. 771 000 entrées en France donc pour ce film. Dernier extrait.
Est-ce qu'Eliott est ton ami imaginaire?
C'est quoi un ami imaginaire?
Eh ben, c'est quand on s'invente un personnage dans la tête, histoire d'avoir quelqu'un à qui parler. C'est pour se sentir moins seul.
Ils sont drôles?
Bien sûr.
Est-ce qu'ils volent?
Oui. On peut leur faire faire tout ce qu'on veut. C'est pour ça qu'ils sont imaginaires.
Tu es mon ami imaginaire, toi?
Non, moi j'existe.
Eliott aussi.
C'est trouvé.
Et c'est donc Peter et Eliott le dragon.
Oui, de David Lowry, film de 2016. Peter, 5 ans, est victime d'un accident de voiture avec ses parents. Seul en forêt perdu, il est recueilli par un dragon. Et 6 ans plus tard, alors que des bûcherons s'aventurent de plus en plus loin dans cette forêt, Peter entre en contact avec d'autres êtres humains, dont Grace, garde forestière, dont le père a toujours prétendu avoir croisé la créature. 704 000 entrées en France pour ce film. Ainsi s'achève donc ce blind test consacré à des films qui mêlaient des acteurs et actrices avec des êtres numériques ou des décors tout en numérique, puisque nous parlions de Dragon en salle depuis le 11 juin. Une Normande profite des Jeux Olympiques pour revoir une demi-sœur perdue de vue depuis 10 ans. Nous parlons du rendez-vous de l'été.
Cinérama.
Je comprends pas. Qu'est-ce que tu comprends pas ?
Actualité, cinéma et tout le reste.
Pas très compliqué à comprendre.
Valentine Cadix signe son premier long métrage avec le rendez-vous de l'été. Alors c'est un beau titre, hein, ce nom ensoleillé qui invite à l'émotion, hein, puisqu'il est question, on le comprend aussi, d'une rencontre. Hein, donc je le dis tout de suite, c'est un beau raté estival hein, qui, au-delà de la déception de juste voir un film qu'on n'aime pas trop, ce qui peut arriver souvent, hein, et il y a aussi la frustration de se dire que non seulement il y avait beaucoup à faire avec ce sujet, mais aussi que le film se repose sur beaucoup de choses qui ont été faites sur ce sujet, et toutes en mieux. Alors un bon point néanmoins, le film s'affiche avec une durée plutôt modeste d'1h17, c'est déjà ça. Sauf que cette courte durée, hein, cette légèreté promise par le format, s'est rapidement transformée en lourdeur, tant on a affaire à un film qui, paradoxalement, semble durer une éternité.
Bonjour, bienvenue.
Bonjour.
Bonne journée.
Ah, madame, le sac, ça va pas être possible.
J'ai une jeune femme là qui a un sac de voyage rempli d'affaires personnelles non risquées.
Déjà, ils sont cons, hein, tu peux les de kidnapper.
Ok. À la base, je devais voir une épreuve de natation. Je viens aussi pour voir ma sœur et ma nièce. Et j'ai pas vu ma sœur depuis 10 ans.
Moi, je commençais déjà à me sentir un petit peu mal parce que j'avais pas ma coloc olympique.
C'est ma demi-sœur. On a le même père, pas la même mère. Et ma nièce a 8 ans et je l'ai jamais rencontrée.
Et les JO ?
Alors il se passe rien hein, dans la vie de Blandine. Hein. Une Normande trentenaire hein, venue à Paris pour assister aux compétitions de natation des Jeux Olympiques et retrouver une demi-sœur perdue de vue depuis 10 ans. Alors le résumé officiel elle nous dit que, habituée au calme et à la solitude, elle découvre une ville bourdonnante dont elle n'a pas les codes. Sauf que le cliché de la provinciale naïve est un peu mis à mal en 2025, hein, car on a quand même un peu beaucoup de mal à croire à une ingénue qui ne sait pas qu'un checkpoint sert à filtrer et que non, les gros sacs, comme on a entendu dans l'extrait, ne sont pas autorisés dans les enceintes publiques. Alors le reste des personnages est un peu à l'avenant, de la sœur séparée égoïste, en passant par le beau-frère militant bedonnant. Alors à la rigueur, la seule qui pourrait être intéressante serait la nièce de Blandine, hein, que Blandine accepte de garder un moment, car le regard frais d'une enfant sur un monde d'adultes paumé pourrait être pertinent, voire émouvant, mais il n'en est rien. Hein, les personnages divagent, sans réel but, hein, sans aucun relief, si ce n'est celui d'être inintéressant au possible. On a beau chercher, le charisme des acteurs est aux abonnés absents, hein, que cela semble voulu ou non, dans une recherche de normalité de tous les jours ou de poésie du quotidien. Alors même et surtout, hein, Blandine, hein, une espèce de droupie, hein, n'est pas correctement utilisée par la réalisatrice. Ben oui, n'est pas Candide qui veut, hein, et même si le rendez-vous de l'été déploie un procédé technique intéressant, hein, la comédie n'en demande pas moins de la rigueur, du tempo et du travail.
Tu veux piquer une tête ?
Non, ça va.
Tu rigoles.
J'ai matché avec un Argentin sur Tinder. Très belle photo, hein.
Ah
oui. Oui, lui, ça doit être un féru de sport.
Si tu me parles encore une seule fois des JO, je te jure que je vais péter un câble.
Flyers, t-shirt anti-JO. Ça vous dit rien ?
Rien. Je suis venue simplement pour la natation. C'est ma seule semaine de vacances. Et si vous voulez être utile, il y a plein de gens dans cette ville qui vont vraiment pas bien.
Ah putain !
Et oui, c'était le seul point, j'avoue, qui m'avait accroché dans l'annonce du film. Valentine Cadix a choisi de tourner en équipe réduite pendant un événement réel. Les Jeux Olympiques de Paris en 2024. C'est un procédé cinématographique hein, qui a fait ses preuves lorsqu'il est bien utilisé, notamment dans des films comme La Bataille de Solferino hein, de Justine Triet, son premier film, ou La Fille du 14 juillet d'Antonin Pérez-Jatko, son premier film aussi. Donc l'irruption du réel n'est pas un simple arrière-plan hein, qui sert à masquer un manque d'argent, il est littéralement intégré à la narration, sert le propos, insuffle une énergie de l'instant, un chaos organisé hein, qui enrichit l'histoire, mais faut-il encore qu'il y ait une histoire à raconter ? Alors le contexte des JO ici n'est qu'un décor figé, même si on a la participation bienvenue hein, d'une véritable nageuse ayant brillé pendant la compétition. La comédie, pour être efficace, elle doit s'inspirer de nos travers, hein, de notre quotidien, certes, mais elle doit impérativement transformer, les sublimer, les adapter au médium cinématographique. Elle a besoin d'une écriture affûtée, hein, d'un sens du rythme, d'une mise en scène qui transcende le réel pour être drôle, touchante et percutante. Pierre Etex l'avait douloureusement appris avec Pete Cocagne, hein, une satire cynique qui, malgré ses bonnes intentions, n'avait pas trouvé son public, justement parce qu'il peinait à transformer le réel en fiction comique. Alors, je parle même pas du dernier acte qui lorgne sur Before Sunrise de Richard Linklater, car c'est tout aussi pénible. Bref, j'aime pas dire du mal d'un premier film, mais là, il y a pas mal de choses à revoir, et encore une fois, c'est dommage, parce que le procédé était vraiment intéressant, mais c'est compliqué.
Bon, le rendez-vous de l'été de Valentine Cadix est en salle depuis le 11 juin.
Je vous trouve si nerveux, quelque chose ne va pas ?
terminé pour aujourd'hui.
Pas si vite.
Excusez-moi encore de vous avoir dérangé.
Ça ne me dérange pas le moins du monde.
Je ne comprends pas ce que vous essayez de me dire.
Il lui arrive quoi, elle ?
Au revoir.
Pardon ?
J'espère que nous aurons le plaisir de vous revoir.
Oui, ça ne fait aucun doute.
Ça ne servirait à rien de le nier.
Merci.
On se retrouve la semaine prochaine et Sophia, tu espères avoir une petite pépite.
Et oui, la suite du Gondry, Maya, donne-moi un titre. Là, ce sera Maya, donne-moi un autre titre.
Et toi, Guillaume, deux films.
Oui, ce sera Lovable et un film que j'attends beaucoup, c'est The Life of Chuck, une adaptation d'une nouvelle très, très, très particulière de Stephen King.
À la semaine prochaine.